et Info Club Sandwich. Bonjour tout le monde, vous écoutez Info Club Sandwich réalisé par Radio Campus Amiens. Votre quotidienne locale d'actualité préférée est disponible en écoute et en réécoute sur le site radiocampusamiens.fr, le 87.7 FM et le DAB+. Pour l'émission du jour, je suis avec Aline et Aurélie. Bonjour vous deux.
Salut.
Bonjour.
L'interview d'aujourd'hui sera sur Pints of Science et en deuxième partie d'émission, Aurélie nous propose une chronique sur le climat et ses records nuls. Aline, je te laisse la parole.
Merci, je suis très pressée d'entendre cette chronique du coup. Alors aujourd'hui, je reçois Charlotte Pio, coordinatrice de Pints of Science à Amiens. Bonjour Charlotte.
Bonjour tout le monde.
Alors, petite question très simple pour commencer. Qu'est-ce que c'est Pints of Science ?
Alors, c'est un festival international de vulgarisation scientifique. Le but, c'est vraiment de démystifier la science et d'inviter le chercheur à venir dialoguer directement avec le grand public.
Donc, on comprend pour le mot pint, donc ça fait référence à une dose, en tout cas souvent, c'est dans les bars, c'est... voilà. Pourquoi ça se passe dans les bars ? D'où ça vient ?
En fait, ça remonte à l'origine de la toute première édition de Pints of Science Monde qui s'est faite en fait au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, l'endroit le plus accessible dans le sens retrouver le public après le boulot, ça se fait dans les pubs. Et donc c'est vraiment là que vient l'ADN de Pints of Science et qu'on a gardé lorsque le concept a été importé en France.
Et comment on apporte ça en France justement ? Est-ce qu'on peut appliquer ce qui se passe à Londres ou en tout cas en Angleterre à la France ?
Bah, tout à fait. En fait, c'est Elodie Chabrol qui est la coordinatrice France qui gère maintenant aussi Pints of Science Monde. Qui en fait, lorsque la première édition de Pints of Science a eu lieu au Royaume-Uni, elle a été tellement séduite par le concept qu'elle a dit qu'il faut à tout prix importer ça en France. Et quand elle est revenue en France, Pints of Science était dans ses bagages. Et c'est comme ça qu'elle l'a dupliqué et étendu à toute la France. Et maintenant, Pints of Science, c'est dans 28 pays au monde.
Et à Amiens, c'est la combienième d'édition ?
C'est notre 9e édition.
Et on en parlait un petit peu en off avant, ça fait 9 éditions que tu es là, bientôt 10.
Oh oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi consiste ton rôle de coordinatrice ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je vais avoir la joie et la chance de tout coordonner depuis la programmation avec les équipes, le fait de... réserver les bars, le fait d'être là tous les soirs pour pouvoir gérer la logistique et autres, et puis surtout être aujourd'hui avec vous pour pouvoir faire la communication. Donc ça va avoir ce côté multicasquette, mais heureusement je ne suis pas toute seule, on est une équipe de 8 et chacun on se répartit un peu les rôles, mais c'est moi qui fais le lien avec le national.
Et si on revient au fait que ça se passe dans les bars, c'est un lieu ouvert. Pour toi, qu'est-ce que ce genre de festival-là où justement on fait des rencontres, notamment avec des chercheurs et des chercheuses, ça apporte quoi au public local ?
Ça permet en fait de se rendre compte que de la recherche qui est faite présentement sur le territoire, de se rendre compte que derrière ces grands murs de l'université, en fait, il y a des chercheurs, il y a des études qui sont menées, et se rendre compte en fait qu'on a des expertises aussi, des savoir-faire sur le territoire aminois et de se rendre compte en fait de ce qui se passe là au coin de la rue.
Donc si je comprends bien, c'est des chercheuses et des doctorantes, uniquement au local.
Oui, uniquement au local, mais qui s'exportent aussi dans d'autres villes de la région, puisqu'on est quand même 6 villes dans la région à supporter l'édition. Mais en effet, sur Amiens, on va surtout avoir des chercheurs ou des doctorants qui viennent de l'Université Picardie-Jules Verne. Mais en fait, on accueille tout type de scientifiques. On a également une archéologue qui nous vient de la DRAC. Donc en soi, elle n'est pas UPJV, mais elle est eu la bienvenue pour nous parler de son sujet.
Et j'ai une petite question aussi sur la forme. C'est quoi la forme de ces soirées-là ? Je ne sais pas si on l'a dit avant, mais c'est du 18 au 20 mai à la Taverne électrique. Donc c'est en soirée. Quelle forme ça prend ? Est-ce que c'est une discussion ? Est-ce que c'est des conférences ?
Justement, ce n'est pas du tout une conférence. C'est tout le principe du festival, c'est de démystifier, c'est de rendre accessible. Donc, on va être plutôt sur des courtes discussions. L'idée, c'est que pendant 10-15 minutes, on découvre un sujet, un concept scientifique, généralement en lien quand même avec la recherche du chercheur qui va venir prendre la parole. Et derrière, avoir 20 minutes réellement d'échange et de dialogue avec le public. L'idée, c'est d'avoir plus de temps à dialoguer et à discuter avec les curieux qui sont venus qu'à parler réellement de son sujet de manière très descendante.
Et si on reparle, si on parle maintenant de la programmation plutôt, qui décide qui sont les chercheuses, qui sont les doctorants, doctorantes à ces soirées-là?
Eh ben, c'est toute l'équipe de bénévoles qu'on a sur Amiens. En fait, nous, on se retrouve régulièrement tous les mois, avec grand plaisir, hein, je préfère quand même à le dire, pour un peu préparer les éditions à venir. Donc, on lance d'abord un appel à manifestation publiquement. On voit un peu quels sont les chercheurs, les doctorants, les scientifiques qui répondent présents. Et en fonction de ça, bah, on voit quels sont les sujets qu'on peut regrouper, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des soirées thématiques. Donc, voir un peu les recoupements qu'on peut faire, le fil rouge, le storytelling qu'on peut avoir. Et ensuite, on a cette belle programmation qui est proposée.
Tu l'as dit, c'est bénévole, ce qui permet aussi de proposer un tarif assez réduit pour accéder à ces soirées-là. C'est 2 euros, c'est ça?
Oui, tout à fait. 2 euros, c'est juste pour rentrer dans les frais de gestion de Pint of Science France. Et l'idée, c'est vraiment de rester sur ce principe d'accessibilité. C'est de rendre accessible la science. Donc, c'est pas, l'idée n'est pas du tout de faire un tarif déjà qui serait bloquant.
Si on parle maintenant un petit peu des soirées précisément, c'est quelle heure déjà? Est-ce qu'il y a un timing précis?
Alors, on commence à 19h officiellement. Après, bien sûr, il y a toujours le temps de latence que le monde arrive, s'installe tranquillement. Allez, généralement, 19h20, on commence réellement la soirée. Et puis, selon les échanges, parce que l'idée n'est pas non plus de bloquer les questions quand il y a des questions et quand il y a des discussions, mais on va quand même jusqu'à facilement 21h30, 22h.
Est-ce que c'est accessible à tous et à toutes? Est-ce que par exemple, des jeunes, des ados, peut-être peuvent comprendre?
Tout à fait, c'est le principe même de l'ADN du festival et de la vulgarisation scientifique au sens large, c'est de rendre accessible qu'importe le public. Donc, sur Amiens, on a la chance parfois d'avoir des familles, des personnes âgées qui viennent, des étudiants, des personnes qui sortent du travail et qui... autour d'un verre, soit aussi parler de science. Donc, on a vraiment tout public. Donc, on va dire, l'exercice côté chercheur, c'est vraiment de se préparer et d'avoir ce discours qui se veut très accessible et très illustratif.
Il y a donc trois soirées avec des thèmes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus et décrire un peu les grands thèmes de ces soirées-là?
Alors, on a trois soirées cette année. Donc, la première soirée, on a décidé d'avoir le fil rouge autour du sol parce qu'en fait, on va aussi bien aller dans le passé avec un petit focus archéologique autour de l'homme néandertalien, mais on va aussi prendre un peu de hauteur puisqu'on va parler de la cartographie des forêts. Donc, on a vraiment ce petit fil conducteur autour de la richesse des sols. On a ensuite une soirée qui va être plutôt autour des neurosciences et de tout ce qui est... troubles du développement, puisque là, l'idée, c'est de faire un état des lieux un peu de la recherche, des nouveaux concepts et de voir comment ces avancées permettent d'adapter les outils pédagogiques ou familiaux pour pouvoir mieux dialoguer avec ces profils atypiques. Et la dernière soirée va être plutôt autour, alors là, on s'est fait plaisir au niveau du titre, on l'a appelé « Aïe, aïe, aïe ». C'est parce qu'on va, en effet, la douleur va être un peu le fil conducteur. Le premier sujet, ça va être autour de l'ail comme pesticide naturel. Donc là, c'est plutôt une douleur pour les pucerons, on va dire. Ensuite, on va être autour de la qualité de vie au travail. Et on va finir sur tout ce qui est les effets environnementaux et pesticides, sur tout ce qui est la périnatalité.
Est-ce que toi, tu as un petit coup de cœur pour une des thématiques ou pour un des axes évoqués?
Alors... mes anciens collègues chercheurs vont se dire automatiquement, elle va parler plutôt de tout ce qui est neurosciences et santé. Mais en fait, non. Désolée. Mon coup de cœur cette année va plutôt pour l'archéologie parce que c'est vraiment un sujet inédit. C'est la première fois en 9 ans qu'on va traiter ce sujet-là, donc j'ai hâte de le découvrir.
On le voit. En tout cas, moi, j'ai la liste des doctorantes, des chercheuses. Il y a beaucoup de chercheuses. Il y en a 10 au total. Il y a aussi, bien sûr, des doctorants et des doctorantes. Pourquoi ? En fait, est-ce un choix volontaire d'avoir mis en avant ces chercheuses ?
Je dirais qu'il est à la fois volontaire et involontaire. On a vraiment à cœur au niveau de l'équipe de promouvoir aussi les femmes chercheuses, à montrer aussi que c'est une carrière possible. Donc, c'est vraiment volontaire d'essayer chaque année de tendre vers la parité. Mais il s'avère que cette année, on a eu beaucoup plus de propositions féminines et donc ça se traduit au niveau de la programmation.
Si on rentre un petit peu dans le détail de la soirée, par exemple, je me demandais si parler des sols, avec la conférence Le microclimat des sols forestiers par Laurie Habermacher, est-ce que ce genre de thématique-là est accessible à tout le monde? Est-ce que ça concerne tout le monde, les publics, les différents publics?
J'aurais tendance à dire que tant qu'on est curieux, tout peut nous concerner. Il est vrai que parfois, on a des personnes qui viennent juste pour un sujet parmi les trois, mais qui prennent plaisir en fait à découvrir et à un peu ouvrir ses chakras, ses horizons, en se disant « Ah ben, je pensais pas que le sujet allait me plaire, mais là, j'ai appris quelque chose, c'était passionnant. » Et parfois, ce sont eux aussi qui posent le plus de questions, en fait.
Pour le mardi 19 mai en soirée, c'est sur la neurodiversité. Il y a notamment « Adapter l'école avec bienveillance ». Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que, par exemple, qui intervient?
Alors là, c'est le laboratoire du CRPCPO qui est notamment spécialisé dans tous ces sujets-là qui intervient. Et en fait, ce sont quatre doctorantes du CRPCPO qui ont vraiment designé cette soirée. Elles ont l'habitude, enfin, le CRPCPO a l'habitude chaque année de participer et elles ont voulu cette année prendre les rênes sur une soirée et donc faire en lien d'avoir un sujet qui puisse se rapprocher le plus de leur sujet de thèse, puisqu'en effet, elles sont quatre à intervenir, mais on n'aura que deux sujets réellement. Et donc, c'est de voir aussi les points de connexion qu'il existe parfois entre des sujets de thèse qui peuvent sembler différents, mais au final, il y a un fil conducteur.
Tu viens de mentionner les labos. Qu'est-ce que c'est les labos, si les auditeuristes ne savent pas exactement ce que c'est un labo pour les universitaires?
Alors, un laboratoire, c'est généralement la réunion de différents scientifiques qui vont travailler sur une thématique commune. Donc, au niveau de l'UPGV, on a de nombreux laboratoires, aussi bien en sciences humaines et sociales que ce qu'on appelle en sciences, technologie et santé. Et donc, on a vraiment une richesse qui nous permet d'avoir une programmation aussi diversifiée, avoir de l'écologie, de l'environnement, de l'archéologie, de l'histoire, mais aussi d'aller sur de la neuroscience ou l'effet de tout ce qui est qualité de vie au travail. Enfin, voilà, on a la chance à l'UPGV. Alors, je pense qu'on a plus de 14 laboratoires en santé, mais c'est parce que c'est mon biais d'origine. Mais on a une multitude de laboratoires avec derrière de nombreux scientifiques qui partagent un même amour pour une thématique.
Et du coup, à l'intérieur de cette thématique-là, ils font leurs propres recherches un peu plus précises.
Poussées, exactement. C'est la nature même d'un doctorat. On s'inscrit dans un laboratoire, dans une thématique commune de recherche, mais on va aller vraiment spécifiquement étudier un sujet bien précis pour faire une avancée au niveau du savoir, des outils qu'on peut mettre en place et derrière avoir peut-être des répercussions sur d'autres thématiques, sur d'autres manières de faire.
On parle des chercheuses, des chercheurs, des doctorants, doctorantes de ces labos-là. C'est quoi leur intérêt, eux, de participer? Puisqu'on a compris, elles sont bénévoles. C'est quoi pour eux l'impact et l'intérêt?
En fait, c'est la nature même du chercheur. Le chercheur a de nombreuses casquettes et l'une de ses missions, c'est aussi la dissémination scientifique, c'est-à-dire pouvoir rendre compte de la recherche qui est menée grâce à l'argent public. Et donc, c'est de participer à ce type d'événement de vulgarisation scientifique, de promotion de la science, de valorisation. Et parfois, pour être passé aussi de l'autre côté de la barrière, ce type de soirée permet de prendre du recul aussi avec son sujet de recherche. Parfois, ce sont des questions très naïves, très curieuses, qui vont ouvrir une autre perspective sur comment on considérait notre recherche, comment on l'a menée, et qui peuvent être des pas de côté tout à fait stimulants et intéressants.
Donc, il y a vraiment possibilité d'avoir des échanges, de poser n'importe quelle question, pas se sentir bête face à quelqu'un qui est un peu plus sachant ou sachante.
Aucune question n'est bête. Toutes les questions sont les bienvenues. Et c'est vraiment le message qu'on fait diffuser dès le début de la soirée, c'est « toutes les questions sont les bienvenues ». Les chercheurs aussi savent que toutes les questions sont les bienvenues. On est juste là pour faire en sorte d'avoir cet espace d'échange et peut-être dans un temps aussi limité parce que l'idée, c'est pas non plus de rester jusqu'à 1h du matin. Il faut quand même à un moment donné qu'on rentre chez soi.
On l'a compris, c'est la 9e édition. Est-ce que vous avez eu des retours concrets avant?
Alors oui, parce que sinon, on serait pas là au bout de la 9e édition. On voit vraiment une évolution d'année en année. On a même dû changer de bar, puisqu'au tout début, on était au Barrio. Maintenant, on est à Taverne Électrique, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont passionnés, qui veulent participer. Donc, on a des retours surtout positifs. On a aussi des demandes de sujets qui viennent d'une année sur l'autre. Et quand je vois qu'en moins de 24 heures, 48 heures après l'ouverture de la billetterie, on a déjà plus de 50% des places qui ont été réservées, je me dis, mais en fait... Il y a une vraie envie, en fait.
Est-ce que vous savez qui vient à peu près? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est tout le monde? Qui réserve, qui connaît et qui réserve ce moment-là, par exemple?
Alors, par rapport à ce que je vois dans la salle, je dirais que sur Amiens, on a la chance d'avoir tout public. Je sais que dans certaines villes de France, on va avoir sur une moyenne d'âge plutôt de 18-35 ans. Sur Amiens, nous allons avoir aussi bien des étudiants de master qui viennent là aussi par curiosité. Ils sont intéressés par la recherche, le doctorat, mais ils ne savent pas trop. Donc, ils viennent aussi par curiosité. On va voir des salariés qui sortent du travail et qui se sont dit, bah, tiens, ce soir, j'aimerais un peu de science pour partager des tapas. Donc, ils viennent nous rejoindre. Et puis, on a aussi des fidèles, des retraités qui viennent chaque année, qui sont passionnés et qui souhaitent toujours, par curiosité, savoir ce que fait le territoire. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir, en fait, de 20 à plus de 77 ans sur Amiens.
Et ce sera peut-être ma dernière question. Est-ce que tu peux me dire où on peut retrouver toutes les informations pratiques?
Alors, toutes les informations sur son pintofscience.fr. Vous allez arriver sur le site national. Et là, vous n'avez plus qu'à choisir la ville d'intérêt. Donc, bien sûr, Amiens. Vous verrez la programmation. Et jusqu'au dernier jour, il faut se connecter parce qu'on a parfois des soirées complètes, mais comme on a des annulations jusqu'à la dernière minute, on a des places qui sont remises à disponibilité, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se connecter régulièrement.
Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil pour motiver les auditoristes à se rendre à la taverne électrique du 18 au 20 mai?
C'est fun, c'est ludique, on passe un bon moment, la preuve, je reviens chaque année.
Merci beaucoup. Sticky. I keep falling in and out of sleep. Letting the sun scorch the grass. The flies are knocking on the glass. But they're the only other friends I have, you see. So much that it hurts. I wish he didn't have to go to work. And I just lie and watch the ceiling fan turn. He's my
my
d'écouter He's My Man de Love Cat. Vous êtes toujours sur Info Club Sandwich. Aurélie, on t'écoute sur le climat qui est un sujet très important de nos jours.
Et oui, selon un récent rapport du service européen Copernicus et de l'Organisation météorologique mondiale, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. Depuis les années 90, la température du vieux continent augmente de 0,56 degrés tous les 10 ans contre une moyenne mondiale de 0,27 degrés. Le constat rapporte aussi que les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées en Europe se sont passées depuis 2019. En 2025, des températures annuelles records ont été observées dans certaines parties du nord de l'Europe, comme la Norvège, le Royaume-Uni et l'Islande. Mais alors, pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus vite que les autres continents ? Le rapport établit plusieurs raisons. D'abord, la sécheresse des sols. En mai 2025, 35% de l'Europe était touchée par une sécheresse agricole extrême. Le continent a aussi connu sa deuxième vague de chaleur la plus sévère jamais enregistrée. Ce mélange de chaleur et de sécheresse contribue au départ d'incendies. L'année dernière, plus d'un million d'hectares ont brûlé sur toute l'Europe. C'est 46 000 de plus que le précédent record établi en 2017. Les pays les plus touchés sont l'Espagne et le Portugal, cumulant à eux seuls près de 65% des hectares partis en fumée. Et cela ne risque malheureusement pas de s'arranger. Dans son sixième rapport publié en 2021, le GIEC signale que le risque de feux de forêt pourrait augmenter dans toutes les régions d'Europe, et particulièrement dans le sud et près de la Méditerranée. Si l'Europe se réchauffe plus vite, c'est aussi à cause du taux d'ensoleillement. En 2025, il était supérieur de 5% par rapport à la moyenne. Alors, si c'est agréable pour nous, pour la planète, c'est une autre histoire. Certaines parties du nord de la France, de l'Allemagne, du Danemark et du Royaume-Uni ont connu une durée d'ensoleillement inhabituelle, allant jusqu'à 30% au-dessus de la moyenne. Ce phénomène est lié à la baisse de couverture nuageuse. Pour les zones terrestres du continent, le taux de nuages a globalement baissé de 3%. Mais dans certaines parties du nord-ouest, du centre et de l'est de l'Europe, ce taux est descendu jusqu'à moins 8%. La fonte des glaces accélère également le réchauffement climatique. La neige a un albédo très élevé, allant jusqu'à 90%, c'est-à-dire qu'elle renvoie la plupart des rayons du soleil dans l'atmosphère, ce qui régule la température de la Terre. Mais plus la neige fond, plus la Terre se réchauffe, et plus la Terre se réchauffe, et plus la neige fond. C'est un cercle vicieux. En mars 2025, la zone enneigée en Europe était d'environ 1,32 million de km² en dessous de la moyenne, ce qui correspond à peu près à la superficie de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de la Suisse réunies. Mais si l'Europe a établi de nouveaux tristes records en termes de climat, le continent en a dépassé d'autres plus encourageants. En 2025, près de la moitié de l'électricité européenne était fournie par les énergies renouvelables, la contribution de l'énergie solaire allant jusqu'à 12,5%. L'éolien, de son côté, produit 18% de l'électricité réelle de l'Europe, presque autant qu'en 2024.
Eh bien, merci Aurélie pour cette chronique très intéressante. Info Club Sandwich est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec Ventura Highway de America et George Martin. Bonne journée et à demain. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air.
surround.